On dirait que Jésus aujourd'hui ouvre la fenêtre et nous fait voir un paysage nouveau, le paysage de l'éternité. Pour la première fois dans l'histoire, quelqu'un ouvre grand la fenêtre et nous fait voir ce qu'il y a au-delà de cette vie. Avec bien des sages déjà, et en premier lieu l'Ancien Testament, a entrouvert la fenêtre de bien des manières sur ce qu'il y a au-delà de la mort. Mais Jésus est celui qui a ouvert la fenêtre. Et lui seul pouvait le faire, parce que comme dit saint Jean, nul n'est monté au ciel et a vu, sinon celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire Jésus. Regardez, dans l'Évangile, Jésus distingue clairement deux mondes. Ce monde-ci, là, ici-bas, et puis le monde à venir, le monde de la résurrection. Il y a un autre monde. Il y a d'abord ce monde-ci où nous sommes, un monde plein de vie. Pensez à toute la création, pensez aux galaxies de galaxies. Pensez à la beauté, à l'amour qu'il y a dans le monde. Mais un monde plein de drames. Et ce qui caractérise foncièrement le monde présent, c'est la mort. Cet ennemi public numéro un, la mort indomptable, inévitable, qui est là et qui marque toute réalité humaine, c'est le monde d'ici-bas. Et Jésus nous dit, il y a aussi un monde à venir. Jésus ouvre la fenêtre sur ce monde de la résurrection. Quand on dit résurrection, on parle nécessairement de résurrection du corps. On ne dit pas résurrection de l'âme, on parle d'immortalité de l'âme. Quand on dit résurrection, c'est un mot qui veut dire physiquement se relever. Il s'agit donc de nous qui, dans la résurrection, nous relevons avec notre corps, passant de la poussière de la mort à la vie éternelle. La résurrection, c'est ce réveil, ce relèvement de tout notre être. Jésus aujourd'hui emploie l'expression « fils de la résurrection ». Nous serons fils et filles de la résurrection. C'est-à-dire qu'il y a un événement, la résurrection du Christ, qui va nous faire nous relever au dernier jour, au jour de la résurrection finale. Vous connaissez sans doute l'image que lise l'apôtre Paul, qui est très simple et très concrète. Paul dit, si tu sèmes une semence dans la terre, elle va mourir, et puis va naître quelque chose, et qui ne ressemble pas à la semence, un épi. De même, ce corps qui est le mien sera un jour déposé en terre, il va se décomposer, il va mourir, pour que jaillisse un corps autre, un corps glorieux, un corps spirituel, dans la résurrection. Autre est le corps mortel d'ici-bas, autre est le corps glorieux, le corps spirituel que nous recevrons dans la résurrection. Parce que nous sommes fils et filles de la résurrection. Et qu'est-ce que nous vivrons dans ce corps glorieux? Jésus n'est pas bavard. Mais il nous dit quand même dans l'évangile d'aujourd'hui trois choses essentielles, nous ouvrant vraiment la fenêtre. D'abord, Jésus nous dit, ils ne peuvent plus mourir. Dans la résurrection, nous ne pouvons plus mourir. C'est très difficile à imaginer pour nous, parce que nous sommes façonnés par le monde d'ici-bas et toujours marqués par la mort. Et ce que nous comprenons, c'est que saisis par l'Esprit Saint, nous serons libérés de la condamnation qui pèse sur la vie ici-bas, et nous serons participants de l'éternité de Dieu. Nous serons comme des anges, dit Jésus, c'est-à-dire embarqués dans l'éternité de Dieu, embarqués dans cette joie infinie. Nous ne pourrons plus mourir, nous ne mourrons plus. Ensuite, Jésus nous dit que là-haut, nous ne prendrons ni femme ni mari. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus d'amour? On ne s'aimera pas? Tout au contraire. C'est parce que nous entrerons dans un amour démultiplié qui est bien au-delà de l'exclusivité du couple. Un amour à large, un amour en plénitude, où nous serons un ciel les uns pour les autres, de même que le Christ Jésus est notre ciel à nous tous. Nous allons vers cet échange, cette plénitude d'amour. Et enfin, Jésus nous dit, nous serons en plénitude fils et filles de Dieu, du Père. Unis à Jésus, nous recevrons sans cesse la vie de Dieu dans une plénitude extraordinaire. Nous serons fils et filles avec Jésus, en Jésus, emportés dans cet échange d'amour, fils et du Père, hein, le fils qui reçoit tout du Père et qui redonne tout, vous voyez cette respiration, c'est ça que nous vivrons, c'est à ça que nous sommes appelés, comme nous l'avons chanté dans le psaume, au réveil, je me rassasirai de ton visage. Alors, est-ce que Jésus a juste ouvert la fenêtre, puis après il l'a fermée, puis bonjour ? Non. Jésus n'a pas simplement ouvert la fenêtre à travers son enseignement dans sa vie publique, il a ouvert le passage de la mort à la vie, de ce monde-ci au monde à venir. Comment est-ce qu'il l'a fait ? Comment est-ce que Jésus a ouvert ce passage ? Par sa mort et sa résurrection. Désormais, le passage est ouvert, le mur de la mort, pensez au mur de Berlin, a éclaté, s'est écroulé. Il y a désormais un passage en forme de croix pour passer de la mort à la vie. Il y a pour chacun de nous un passage qui a la forme de notre croix pour passer dans le monde de la résurrection, dans la vie éternelle. Ma mort, la tienne, comme décomposition de l'être dans l'éloignement de Dieu, eh bien cette mort-là, Jésus l'a vaincue. Il l'a vécue et il l'a vaincue. Il l'a traversée. Elle n'existe plus. Ma mort, au sens de mort éternelle, n'existe plus. Par pure grâce, par pure miséricorde, par le sang du Christ, par sa passion, sa mort et sa résurrection. Et l'heure où notre cœur s'arrêtera de battre sera, si nous disons oui à Jésus, l'entrée dans le monde à venir. Cela, eh bien, c'est déjà en nous depuis notre baptême. C'est le don extraordinaire, on n'a pas de mots pour le dire, de notre baptême. La résurrection n'est pas simplement notre demain au-delà de la mort, elle est déjà en nous. Il y a de la résurrection en toi. Et chaque Eucharistie vient vivifier cette grâce de résurrection qui est en nous depuis notre baptême. Alors, est-ce que la mort d'un chrétien est donc facile ? L'autoroute, ça passe tout seul ? Non, certainement pas. Nous le savons bien, la mort reste un combat. Et beaucoup d'entre vous avaient certainement assisté des mourants à l'heure de la mort et du combat qu'il y a. Mais est-ce que vous voyez la différence entre combattre contre un inconnu qui va vous détruire et combattre pour s'abandonner à l'amour de quelqu'un qui nous attend, nous accueille et nous sauve. Il y a une différence radicale entre le combat désespéré contre la mort qui va m'engloutir certainement et le combat pour s'abandonner à l'amour qui va m'éterniser. D'où vient l'euthanasie ? Elle vient de ce que beaucoup ne voient que la première forme de combat. Ce combat désespéré contre la mort qui va m'engloutir. Disons-le clairement, l'euthanasie est objectivement un mal qui détruit les fondements de la société, puisqu'elle autorise la mise à mort d'une personne humaine. Un enfant de Dieu. Elle est le produit d'une société incapable d'accepter la faiblesse, la vulnérabilité, le handicap. Elle est la solution macabre que trouve notre société pour régler un énorme problème économique. Et surtout, elle met à mort les plus vulnérables. Mais je dois confesser que jamais je ne pourrai condamner une personne qui demande l'euthanasie. Parce que pour quelqu'un qui n'a pas rencontré Jésus, l'euthanasie est extrêmement séduisante. Elle est une tentation extrêmement forte. Et surtout, surtout, pour des personnes privées d'accompagnement spirituel. Je le dis à mes frères et sœurs, si un jour je suis sur un lit d'hôpital et que je vous dis « tuez-moi », surtout ne me tuez pas. Annoncez-moi l'amour du Seigneur. Rassurez-moi. Dites-moi la tendresse de Dieu. Parlez-moi de la mort. Je le répète, parlez-moi de la mort. Ne me la cachez pas. Ne me cachez pas qu'elle est un combat. Et ne me cachez pas qu'elle est le passage nécessaire vers la vie éternelle, vers un bonheur d'éternité. Sœur Roxane, responsable d'une unité de soins palliatifs en Bretagne, écrit ceci qui m'a beaucoup touché. La souffrance spirituelle des mourants est l'une des plus aiguës, et pourtant elle est celle qui est la plus négligée. Si on sait soulager la douleur, on ne sait pas toujours soulager cette souffrance spirituelle qui naît quand les besoins spirituels ne sont pas pris en compte. La personne malade, mourante, entre dans une crise existentielle profonde avec un écroulement de son monde intérieur qui l'entraîne dans un combat pour retrouver son unité. Le besoin le plus extrême est de se reconnaître et d'être reconnu comme existant, vivant, jusqu'au dernier moment. Intense est alors le besoin de relation, mais aussi de solitude, pour se réconcilier avec soi-même et avec les autres. Voyez les deux routes qui se présentent à notre société aujourd'hui. Ou bien l'euthanasie, ou bien les soins de fin de vie, qui sont particulièrement des soins spirituels. C'est une ou l'autre. Je vous invite à relire le chapitre 7 du deuxième livre des Maccabées. On a lu juste un extrait aujourd'hui dans la première lecture. Vous y verrez la cruauté sans nom du roi Épiphane, qui mettent à mort ceux qui pratiquent ostensiblement leur religion. Et vous y verrez le courage d'une maman qui accompagne ses enfants en fin de vie. Et je vous livre juste les paroles de la maman à ses 7 fils en fin de vie. Je ne sais pas comment vous êtes apparus dans mes entrailles. Ce n'est pas moi qui vous ai gratifié de l'esprit et de la vie. Aussi bien, le Créateur du monde, qui est à l'origine de toute chose, vous rendra-t-il dans sa miséricorde et l'esprit et la vie, parce que vous vous sacrifiez vous-même pour l'amour de ses lois, pour sa loi d'amour. Une maman qui accompagne ses enfants en fin de vie. Nous, chrétiens, nous avons aujourd'hui un service immense à rendre. Nous tous, pas seulement les prêtres. Si la société devient comme le roi Épiphane, nous devons devenir, nous autres, comme cette mère, pleine de tendresse et de force pour proclamer la miséricorde de Dieu et la vie éternelle. nous autres chrétiens, nous ne sommes pas envoyés pour condamner qui que ce soit, pas même les défenseurs de l'euthanasie. Nous sommes envoyés pour ouvrir la fenêtre sur le ciel, pour ouvrir la fenêtre de l'espérance à un nombre incalculable de personnes dont la société a rongé l'espérance. Notre société est en train de priver l'espérance. Alors je vous pose simplement la question, cette semaine, à qui vas-tu aller ouvrir la fenêtre de l'espérance? À qui le Seigneur t'envoie-t-il cet après-midi, ce soir, cette semaine, pour être témoin de miséricorde et d'espérance? Et pour que nous-mêmes, nous ne perdions pas l'espérance, et pour que cette espérance du ciel se fortifie en nous et qu'elle nous donne des ailes, le Seigneur a inventé un moyen extraordinaire, la célébration de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est la mort et la résurrection de Jésus, c'est-à-dire tout notre salut, tout le salut de l'humanité à laquelle nous communions ensemble. L'Eucharistie, c'est vraiment une fenêtre ouverte sur le ciel. L'Eucharistie, c'est du ciel sur la terre. C'est de l'éternité dans nos veines. C'est Jésus qui vient nous redire à chacun et à nous ensemble, je suis la résurrection, je suis la vie. C'est Jésus qui veut nous en imprégner au plus profond de notre être.